Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso.
Antonio, imbécile.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale cinéma et Italie avec quelques sorties. Carlotta Film comme Jour d'amour de Giuseppe De Santis. Bandit à Orgozolo de Vittorio De Setta, les Basilischi de Lina Wertmüller, la légende du saint buveur de Ermanno Olmi, Démonia de Lucio Fulci et les films d'animation interdits aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto et Titina de Caixa Ness, j'espère bien le prononcer. Ces deux films sont sortis chez Blackout. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mottier et Sandrine Hiver pour leur aide sur cette émission. Nous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur ecstasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, bien sûr, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer cinéma et Italie et regard de cinéaste sur l'Italie, je suis accompagné de deux personnages qui vont nous livrer leurs regards et leurs avis acérés, bien sûr, sur les films que nous allons évoquer. Je veux bien sûr parler du plus jeune de la bande, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, celui qu'on surnomme le loup-garou picard, je veux bien sûr parler de Thomas Roland qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
Ciao Damien, ciao Gégé et bien évidemment ciao à toutes.
Une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui beaucoup parler donc de cinéma italien, mais aussi de regards portés par les cinéastes italiens, à la fois par exemple sur la ville de Paris, mais aussi de regards portés sur les cinéastes d'autres pays sur l'Italie. Et en particulier, vous verrez tout à l'heure, on parlera de liens entre la Norvège et l'Italie d'une manière un peu particulière via un film d'animation passionnant. Mais on va débuter cette émission par un grand réalisateur de l'histoire du cinéma italien, puisqu'il a signé, entre autres, Riamer. Je veux bien sûr parler de Giuseppe De Santis. Giuseppe De Santis qui donc signe avec Jour d'amour, Giorni d'amore, un film sorti en 1954, une comédie ma foi, plutôt classique d'ailleurs, hein, une comédie qui dans sa forme est très proche de beaucoup de comédies italiennes qui sortaient à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qu'elle raconte dans le fond, cette comédie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire de cette comédie ? C'est assez simple. Angela, qui est incarnée par Marina Vladi, et Pasquale, qui est incarné par Marcello Mastroianni, le charme italien à lui tout seul, hein, ont grandi ensemble dans une petite ville d'Italie et sont tombés amoureux. Ils aimeraient pouvoir se marier, mais leurs familles respectives de modestes paysans n'ont pas assez d'argent pour organiser la noce. Face au désarroi de leurs enfants, ils trouvent bientôt un stratagème qui devrait leur éviter trop de dépenses inutiles. Angela et Pasquale devront fuguer et rester seuls pendant quelques jours. Et à leur retour, il ne leur restera plus qu'à les marier dans une cérémonie officielle à moindre frais. Voilà le plan qui est décidé par les deux familles. Et voilà donc ce film, mis en scène quand même par l'un des fondateurs du néo-réalisme italien. Hein. Je vous parlais de Riamer, il y a aussi Pâques sanglante. Mais là, on n'est pas du tout en fait, dans le néo-réalisme au niveau de la forme, mais c'est plutôt au niveau du fond qu'il faut aller chercher avec ce film de Giuseppe De Santis. Cela peut certes étonner de voir Giuseppe De Santis signer cette comédie italienne qui est plutôt tendre, qui est plutôt grand public hein, d'ailleurs, hein, et qui peut paraître, aux yeux du spectateur d'aujourd'hui, assez désuète. Mais à l'époque, le film a un aspect gentiment corrosif tout de même, avec cette obligation qui est faite de se marier dans un pays où les paysans, et ça c'est frontalement abordé, sont les oubliés du grand boom économique. Dans un pays aussi où le divorce est interdit, on le rappelle, d'où d'ailleurs certaines anecdotes assez connues hein, pour les amateurs de cinéma italien, et en particulier par exemple le sort de Vittorio De Sica, qui avant d'être un réalisateur était un acteur et qui est comment dire qui avait plusieurs femmes en fait puisque il pouvait pas se remarier, donc il vivait avec plusieurs femmes à la fois, mais c'était au su et au vu de tout le monde parce que tout simplement le divorce était interdit. Et puis ce film, c'est aussi en toile de fond deux amoureux qui négocient en fait pour avoir le droit de coucher ensemble. Je veux dire, voilà, c'est aussi simple que ça. Et dans cette Italie où règne la pauvreté, cette Italie de la, comment dire, de la paysannerie, il y a tellement de promiscuité, on vit tellement les uns sur les autres dans des petites maisons, qu'il est fort difficile d'aller commettre le péché de chair sans être vu par d'autres. Alors, évidemment, tout cela, c'est gentiment abordé, mais c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et qui donne un aspect, comment dire, un peu plus politique à cette farce bucolique. Alors, c'est certainement pas un hasard. D'ailleurs, Sir Elio Petri figure parmi les scénaristes de ce film, puisque Elio Petri, on le connaît, cinéaste engagé de la classe ouvrière, va au paradis et qu'il a, évidemment, met tout son talent pour un peu, on va dire, pervertir cette comédie gentiment tout public et lui donner un petit propos politique. Et bon, je voulais signaler aussi que la réalisation, certes, elle est plutôt discrète, mais il y a un très très beau plan séquence à un moment du film, je ne vous en dis pas plus, lorsque Marina Vladi croit avoir perdu son irrésistible Marcello. Donc un film modeste pour moi, mais c'est un film modeste dans le bon sens du terme, qui est ce jour d'amour de Giuseppe De Santis, un film particulièrement charmant, je crois que c'est le terme qui décrit parfaitement ce film, et donc que je vous invite à voir et qui est sorti chez Carlotta Film. Jour d'amour de Giuseppe De Santis. Beaucoup moins drôle, mon cher Thomas, beaucoup moins drôle, et Bandit à Orgozolo de Vittorio De Sica, qui est un film sorti en 1960 et qui est également disponible chez Carlotta Film.
Vittorio De Sica, que j'avais dont j'ai connu l'œuvre par le Festival international du film d'Amiens, qui avait programmé ses courts-métrages documentaires, car Vittorio De Sica est au départ un documentariste, dans lesquels il montre sans voix off, sans rien, il décrit le travail des artisans dans cette région d'Italie qui est les Pouilles, je crois. Hein. Et j'avais trouvé ça extrêmement chouette, ces documentaires, et j'étais vraiment très curieux de pouvoir découvrir ça. Seule fiction, je crois, hein, son long métrage de fiction, Bandit à Orgozolo. Et je me suis dit que j'allais y retrouver cette même façon de filmer, assez dépouillée,
assez sec, assez sèche. Et donc, Bandit Rogo Solo, c'est bien sûr une histoire de bandit, comme son titre l'indique. Ça se situe dans les Pouilles, et il y a Michele qui élève des chèvres avec son petit frère dans les montagnes des Pouilles, et il a le malheur de croiser le chemin d'une bande de voleurs de cochons. Donc Michele, lui, ne prend pas parti, il les héberge un temps, eux, entre temps, ils tuent un cochon, puis ils le laissent sur son campement jusqu'à ce que les carabiniers arrivent, parce qu'ils poursuivent ces voleurs de cochons. Et par un concours de circonstances, Michele va être accusé du meurtre d'un des carabiniers au cours de la fusillade, à laquelle il n'a pas pris part d'ailleurs. Et il décide de fuir avec son petit frère et ses chèvres pour échapper aux carabiniers, puis pour survivre, parce que ses chèvres, c'est son seul moyen de subsistance. Il les a payés à crédit, ce qui lui permet aussi d'avoir un toit. Et il veut absolument pouvoir garder ses chèvres et continuer à faire du fromage avec. Donc on retrouve cette même mise en scène très réaliste chez Vittorio De Sica dans Bordi Orgo Solo. Il y a très peu de musique. D'ailleurs, quand il y a de la musique, elle est très bien utilisée. Et il décrit très bien la situation de ce personnage qui, en fait, est acculé dans ses derniers retranchements. Il montre très bien la pauvreté et comment on peut tomber d'un état à l'autre, c'est-à-dire comment on peut être considéré comme malhonnête, un criminel, du jour au lendemain, dans ce pays où, comme ils le disent au début du film, il n'y a pas vraiment de loi, en fait. Et moi, je trouve que j'aime vraiment beaucoup. C'est pas du tout spectaculaire, c'est pas du tout sensationnaliste. Et je retrouve vraiment le Vittorio De Sica documentariste. Dans ce film, en plus, il y a une lumière magnifique. La lumière est superbe. Il y a des plans nocturnes superbes. Pour moi, c'est un très grand film à découvrir absolument.
Pour être précis, Orgo Solo, c'est en Sardaigne, Thomas. Ça se situe en Sardaigne. La Sardaigne, qui est une région, la ville la plus connue de Sardaigne, c'est Bari, en fait. Et qui est une région, effectivement, très, très rurale. Donc, on peut facilement, effectivement... faire la confusion avec les Pouilles. Damien, toi, tu as vu aussi ce film, donc Bandit à Orgo Solo de Vittorio De Sica, qui est disponible chez Carlotta Film, accompagné d'ailleurs de pas mal de bonus, mais on en reparlera peut-être, Thomas, tu veux peut-être en reparler après. À toi, mon cher Damien.
Bandit à Orgo Solo, c'est une très belle découverte, car comme tu l'as précisé, Thomas, c'est un très très beau film en noir et blanc qui a une caméra magnifique, qui montre des paysages somptueux et des portraits de personnages plutôt intenses. On y suit une atmosphère d'un homme assez solitaire. Bon, il n'est pas vraiment solitaire vu qu'il y a lui et son frère, mais il est plutôt isolé dans la situation dans laquelle il se retrouve. Et au final, on a une sorte de course-poursuite un peu particulier entre lui et ses bêtes et les carabiniers qui le poursuivent. Une course-poursuite qui est liée indirectement au brouhaha de la transhumance qu'il a avec ses bêtes. À chaque fois qu'il se déplace, on a ces cloches qui font beaucoup de bruit et qui, du coup, on entend essentiellement dans les situations où il doit partir assez précipitamment. C'est quelque chose qui relie indirectement, en fait, l'homme et la nature. Et on a dit que c'est un film réaliste, mais il y a vraiment un côté très naturaliste qui en ressort. C'est une caméra très simple qui est liée, je pense, à son passé de documentaliste pour De Sica. Mais c'est vrai que c'est un film qui nous montre une Italie assez dure, très ruale. Je dirais pas démunie, mais avec une sobriété... limite, en fait. C'est ce qu'on voit au final dans le film, c'est qu'il vit d'une certaine façon, et ce que tu disais, Thomas, et qu'il suffit d'un rien pour au final le faire totalement basculer dans la pauvreté et indépendamment de lui au final dans le vagabondage. Et c'est un film qui présente aussi d'une manière particulière la répercussion des troubles qui est causé en Italie, voire d'un certain cycle de violence. Au final, je trouve que c'est un film intimiste qui nous fait rentrer dedans, pas rude mais très beau.
la photographie dont vous parlez depuis tout à l'heure, hein, qui est magnifique, hein, elle est signée Luciano Tovoli, que beaucoup d'admirateurs de cinéma fantastique connaissent pour être le directeur de la photo du Suspiria de Dario Argento. Et que c'est vrai qu'elle est sublime, que le film est d'une beauté plastique incroyable, que c'est un des fleurons du néo-réalisme italien. Je crois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Pour moi, c'est un quasi chef-d'œuvre, hein, c'est un immense film. Et le film a quelque chose de l'épure aussi, qui est très intéressant dans ce qu'il raconte, parce qu'il peut être vu aussi presque comme un thriller, hein, comme un road movie, un thriller. C'est très sec, il y a une ambiance... c'est pas très éloigné d'Anthony Mann, d'ailleurs, par instant aussi, cette grande sécheresse, cette économie de plans inutiles et de péripéties inutiles. Et il faut savoir qu'à l'époque, au départ... Alors lui, c'est un documentariste, Vittorio De Sica. Il vient vraiment de la bourgeoisie et quand il découvre le lumpen prolétariat, quand il découvre ces oubliés du boom économique, ça fait le lien avec le film précédent, hein, dont on vient de parler à l'instant. Cette population, et en particulier la population d'Orgozolo, elle est visiblement considérée comme une population qui subit énormément les conséquences d'une politique qui est désastreuse pour l'agriculture, pour les paysans, à tel point d'ailleurs qu'à l'époque, il y a un célèbre journaliste qui s'appelle Cagnetta, qui écrit un texte justement sur Orgozolo et la situation des paysans là-bas et sur la quasi-guerre qui leur est faite par l'État. Et à l'époque, ça ne plaît pas du tout au ministre de l'Intérieur, Mario Scelba, qui attaque en justice Franco Cagnetta et les co-directeurs donc de Nuovi Argomenti, qui est la revue pour laquelle le journal pour lequel il travaille. Donc il y a un vrai fond social à cette histoire. C'est nourri de véritables témoignages. C'est joué par des acteurs du cru qui ne sont pas des acteurs professionnels, qui sont tous très bons, hein, qui sont tous aussi très... très réaliste. Il faut savoir qu'au départ, il fait appel à toute la fine fleur de la gauche intellectuelle, à savoir Alberto Moravia, qu'on connaît plus pour le mépris de ce côté-ci des Alpes, et à Franco Solinas, immense scénariste de gauche, qu'on connaît, ce scénariste pour Quemada, la bataille d'Alger, les westerns de Sergio Solima. Et quand il reçoit tout ça, Vittorio De Sica, il met tout à la poubelle. Il veut, c'est trop bavard pour lui, il y a trop de dialogue, c'est trop dialogué. Il veut pas un pensum verbeux, il veut quelque chose d'efficace. Et effectivement, son film confine à l'épure, et c'est un témoignage passionnant sur ce que c'est que le déterminisme social, hein, puisqu'on voit à un moment une scène qui est frappante, c'est-à-dire que cet homme, qui est un homme digne, hein, qui est un homme qui veut vivre de son travail, qui ne s'oppose pas, comme tu le disais, aux brigands qui viennent sur ses terres, qui ne s'oppose pas parce qu'il ne veut pas d'histoire. Et bien, il va se retrouver mêlé, malgré lui, à tout cela, puisque ben, il ne veut pas d'histoire, certes, sauf que le bandit qui est sur ses terres va finir par abattre un carabinier et qu'il va devoir porter le chapeau de tout ça, il va devoir s'enfuir. Et dans sa fuite, il va rencontrer un autre berger. Et on va dire que l'un envers l'autre, vont avoir un comportement qui n'est pas un comportement de solidarité de classe, qui est un comportement où on voit que le pauvre, préfère affronter le pauvre plutôt que faire preuve de solidarité avec lui. C'est quelque chose d'assez terrible, parce que c'est quelque chose qui va venir en résonance avec le final du film. C'est quand même un film très noir, très sombre, qui malheureusement... offre une vision de l'humanité totalement effrayante, mais ce qui est sous-tendu et ce qui est très fort dans le film, c'est que si l'humanité en est arrivée là, c'est à cause d'une politique répressive qui est développée, parce que ce paysan, comme c'est un paysan d'Orgozolo, il est fatalement un bandit. C'est aussi ça que raconte ce très grand film qui est soutenu donc par une quantité impressionnante de bonus. Et en particulier, on retrouve des courts-métrages, hein, réalisés par Vittorio De Sica. Il y a un entretien avec lui. Il y a un entretien avec la réalisatrice Dominique Cabrera, qui a fait signer par exemple Corniche Kennedy. On découvre plus en avant le cinéma de Vittorio De Sica. Donc, Bandit à Orgozolo. C'est sorti chez Carlotta Film et on vous le conseille vivement.
Beu gaus sempre non serret chama passeggiar no gel è uguale a un altro giorno, o tempo se ne va. Alla piazza del Gamone, se lo sa, sai chi c'è. Per cento lì belle canto tui.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Et c'est ogni tanto de quoi che una che alla piazza del Gamone, se lo sa, sai chi c'è, amica lì, che facendo lì, belle canto tui.
En Italie, toujours chez Carlotta Film, je vais vous parler de Les Basilisques, Les Basiliques, I Basilisques, un film italien évidemment, sorti en 1963, premier film de Lina Wertmüller en tant que réalisatrice. On a déjà longuement parlé de Lina Wertmüller dans cette émission, parce que Carlotta a déjà sorti des films de cette réalisatrice culte, or culte pour surtout un film qui s'appelle Mimi Metallo, Blessé dans son orgueil, qui est un grand classique du cinéma italien, qui avait aussi réalisé un western sorti chez Artus Film, Belle Star Story, dont on avait parlé, un western féministe, c'était assez étonnant. Qu'est-ce que ça raconte, ce premier film de Lina Wertmüller ? C'est l'histoire de Francesco, Sergio et Antonio, qui sont trois jeunes hommes privilégiés, qui vivent dans la ville provinciale de Minervino Murge, située entre les Pouilles et la Basilicate. On s'en approche, Thomas, des Pouilles, on s'en approche dans ce film. Le film, c'est un portrait de leur vie trop imprégnée d'apathie, de provincialisme. Et en fait, ils sont partagés entre l'envie de quitter leur province pour aller, tenter leur chance à la ville pour aller découvrir le monde, ou bien de rester chez eux, de rester apathiques, de rester dans leur petite province et de ne jamais voir leurs ambitions, pour peu qu'ils en aient, se réaliser. Et en fait, vont-ils aller, pour un d'entre eux, à l'université de Bari, par exemple. Donc, voilà un peu ce que raconte ce film, qui est vraiment tourné sur les lieux mêmes, qui est tourné à Minervino Murge et à Spinazzola dans les Pouilles, et à Palazzo San Gervasio dans la Basilicate. Alors, les Pouilles, c'est important que Lina Wertmüller ait filmé dans les Pouilles parce que c'est la région en fait dont est originaire son propre père. Et en fait, là aussi, les acteurs ne sont pas professionnels, sont des gens du cru. C'est un point commun en fait avec le film de Vittorio De Sica dont on vient de parler. Alors, la différence près là, c'est qu'on est dans une vision cinématographique un poil plus classique. Puisque on n'est pas dans une vision aussi réaliste que celle choisie par Vittorio De Sica, et on est dans une narration aussi plus ambitieuse, puisqu'on est dans ce qu'on appelle un film choral, c'est-à-dire qui met en parallèle les destinées de plusieurs personnages. et qui reprend en fait là aussi une thématique qu'on a dans Bandit à Orgo Zolo, mais qui est traitée là de manière différente. C'est le traditionnalisme de certaines régions d'Italie, le côté, comment on peut dire, qu'on voit dans plein de films, qu'on voit même dans La Longue Nuit de l'Exorcisme de Fulci par exemple, qui est cette Italie rurale, cette Italie oubliée du boom économique, et cette Italie qui est coincée comme ça à l'étroit dans ses traditions, dans ses préjugés, dans ses partis pris, et qui voit en plus, on peut voir hein, un grand sexisme, on peut voir des conflits de classe s'y dérouler. Tout cela, c'est dans le film. Hein, et le film, il partage aussi un point commun avec le film de Vittorio De Sette, c'est qu'il est éclairé par un grand directeur de la photographie, puisque c'est Gianni Di Venanzo, qui a beaucoup travaillé avec Michelangelo Antonioni, Le Cri, La Nuit, L'Éclipse, qui a beaucoup travaillé avec Francesco Rosi, qui a beaucoup travaillé avec Fellini sur 8,5, par exemple. Donc, on tente de donner, avec différents cadrages et tout, un petit côté presque reportage photo à ce film, mais qui néanmoins est très différent de l'aspect néo-réaliste et rigolo. C'est différentes façons en fait de vouloir être réaliste. Le film de Lina Wertmüller, on sent beaucoup plus l'aspect travaillé, l'aspect cinématographique, alors que dans le film de De Sette, on sent qu'il vient vraiment du documentaire, quoi. C'est assez clair. Et pourtant, c'est incroyablement mis en scène aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais on sent un plus grand réalisme chez De Sette. Et cette thématique qui fait de Minervino Murger une sorte d'aimant, qui fait qu'il y a une sorte de déterminisme lié à la classe sociale, rejoint aussi énormément, évidemment, le film de De Sette. C'est une thématique qui traversait à l'époque énormément le cinéma italien. Et évidemment, le propos du film, et qui est à mon avis intéressant et qui est à mettre en parallèle avec le travail fait par Vittorio De Sette, le travail de Lina Wertmüller, c'est cette paralysie en fait d'une certaine Italie qui a été laissée de côté et qui n'arrive plus après à se développer, qui n'arrive plus à sortir de sa condition, de sa situation. Et donc cela donne un film, Les Basilisci, c'est sorti chez Carlotta, un grand film à voir, même si il faut voir les deux, moi je trouve qu'il faut voir les deux à la suite, pour vous faire une idée de la situation du sud de l'Italie à l'époque. Il faut voir donc ces deux films sortis chez Carlotta. Film Bandit à Orgo Zolo de Vittorio De Sette et de Lina Wertmüller, Les Basilisci, ça c'est chez Carlotta Film, donc je viens de le dire, et toujours chez Carlotta Film, mon cher Thomas, un film un peu particulier là, de celui qui a été pendant un moment considéré comme l'avenir du cinéma italien, et qui est retombé dans l'oubli derrière, Ermanno Olmi, et en 88 il signe une adaptation de la nouvelle de Joseph Ross, La légende du Saint-Buveur. Quand on sait que Joseph Ross, immense auteur, est mort clochard dans les rues parisiennes, je crois, enfin dans un destin qui est assez proche là du personnage du film principal, ça interroge. Et La légende du Saint-Buveur, mon cher Thomas, ça raconte l'histoire d'un vieux monsieur élégant qui va choisir parmi plusieurs clochards qui peuplent les quais de Seine un certain Andreas Kartak, ancien mineur de Silésie, qui trimballe un secret terrible en fait qu'on va découvrir. Il lui remet 200 francs, et oui, soit 30 euros, mais à l'époque c'était des francs, les jeunes, qu'il doit rapporter le dimanche matin après la messe à l'église Sainte-Marie des Batignolles, où se trouve la statue de Sainte Thérèse de Lisieux. Et ce prêt, en fait, presque miraculeux hein, pour le personnage d'Andreas Kartak, va précipiter sa vie et il va se mettre à rencontrer dans un laps de temps très court de nombreux personnages. C'est une sorte de version un peu trash du Noël de Scrooge de Dickens. Hein, c'est une sorte de fable un peu philosophique, mon cher Thomas.
C'est un film assez étonnant de la part d'Ermano Olmi. Bon, je ne connais pas toute sa filmographie, mais il est surtout connu pour L'Arbre aux Sabots. Hein. Il parlait beaucoup de la paysannerie italienne. Et son dernier film est un film sur les migrants. Et ça, c'était Le Village de Carton qui est sorti il y a quelques années. Et donc là, c'est un film un peu à part. C'est un film donc, qui se passe à Paris et avec une vision de Paris assez étrange. C'est un film qui... pour moi, est plutôt onirique, voire à la limite du fantastique. Donc, ce personnage incarné par Rutger Hauer, avec ses 200 francs, bah, il va aller se faire une coupe de cheveux, il va aller boire un coup dans des bars. Et il rencontre effectivement des gens qui lui proposent du travail, déménager un appartement. Il va faire des rencontres étranges comme ça. Et il y a une vision assez à la limite du cliché de Paris. On voit des gens avec des bérets, enfin... tel que les Américains nous imaginent, en fait. Hein. Mais il y a cette vision de Paris, mais je pense que c'est... en même temps, c'est voulu. Je pense que c'est parfaitement conscient de la part d'Ermano Olmi, parce que c'est quand même pas un con, Ermano Olmi, hein, quand on voit ses films. On est dans une sorte de rêverie pendant 2 heures. En fait, on se demande si ce personnage, quand on arrive à la fin, on se demande si ce personnage vit réellement tout ce que l'on voit pendant le film, parce qu'il rencontre des gens qu'il n'a pas vus depuis longtemps. C'est étrange quand même, juste devant l'église où il doit se rendre pour rendre les 200 francs à Sainte-Thérèse de Lisieux, il rencontre une ex-amante, il rencontre un ancien ami, il rencontre un ami qui est devenu boxeur, et tous ces gens-là, en fait, ce sont des gens qui viennent de Silésie et qui se retrouvent comme par hasard à Paris. Et donc il y a ce côté assez onirique, c'est très beau, hein, visuellement c'est très beau. Il y a ce côté assez onirique. Finalement, on se demande si ce que vit ce personnage, est-ce qu'il le rêve ou pas. Si, en fait, bon, je vais pas raconter la fin. Hein. On se demande vraiment si ce personnage vit vraiment cela ou si il voit pas un peu sa vie défiler un peu devant ses yeux, quoi.
Je pense que ce personnage, mon cher Thomas, qui est incarné par Rutger Hauer, qui trouve là un de ses meilleurs rôles, et le personnage à travers lequel le réalisateur choisit de s'exprimer, et qu'en fait, ce qu'on voit, c'est ce qui se passe dans la tête du personnage, mais effectivement, je pense que c'est une vision altérée, donc c'est sa vision caricaturale de Paris, c'est aussi des visions un peu fantasmatiques de personnes qu'il n'a pas revues depuis très longtemps, parce qu'il a fait quelque chose de terrible, ce personnage, donc il a quelque chose à régler, à expier, quelque part, voilà. Le film n'est pas bon dieuzard, hein, mais je veux dire, le personnage, il a une rédemption à vivre, voilà. Donc, et ça donne un film à la limite du fantastique, hein, un vrai film, un vrai conte fantastique qui est pour moi un bel exemple de, je ne sais pas si j'oserais employer cette expression, mais de réalisme onirique. Voilà.
On peut parler de réalisme magique, hein. C'est un peu ce qui avait été initié par Gabriel Garcia Marquez avec son livre « 100 ans de solitude ». On peut parler de cela, effectivement. Mais c'est vrai qu'on est à la limite du fantastique. C'est de la fantasmagorie. Il y a cette scène de bal là qui est très belle. En fait, il y a très peu de personnages. C'est pas du tout réaliste. Et la photo est très belle en plus. Hein, mais c'est une vision fantasmagorique de Paris, quoi.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale, regard sur l'Italie.
Thank you.
On va faire maintenant un petit voyage dans le temps pour parler d'un réalisateur italien qu'on aime beaucoup, hein, dans Culture Prohibée, qui est également mis à l'honneur chez Carlotta Film. C'est un certain Lucio Fulci. Et ce film, c'est Démonia. C'est un film qui était directement sorti en vidéo en 1990, qui n'était pas si évident que ça à trouver jusqu'à il y a quelques années de cela, quand des éditeurs américains ont commencé à sortir une édition d'ailleurs plastiquement très belle, hein, de ce film, ma foi, très mineur, hein, on va dire, dans tous les sens du terme, puisqu'il y a question de fouilles archéologiques. Mais désolé pour ce jeu de mots un peu foireux, les amis. C'est un film qui raconte quoi ? Ça raconte l'histoire d'une équipe archéologique de Canadiens qui, entre deux portions de poutine, entre deux soirées autour du feu, en train de jouer de la guitare et de chanter des chansons, ces Canadiens dirigés par le professeur Evans, alias Brett Halsey, qui trouve là... qui essaye de survivre un peu en jouant dans des toute petite production italienne. Cette équipe d'archéologues descend sur les ruines d'un monastère médiéval sicilien pour entreprendre une fouille. Et là, effectivement, le lieu est magnifique. Le lieu est superbe. Et dans cette équipe, il y a la jeune Lisa, qui se sent mystérieusement attirée par justement ce monastère médiéval. Et puis elle va découvrir, en fouillant comme ça, l'existence d'une crypte secrète où il y a eu auparavant 5 nonnes adoratrices de Satan qui ont été crucifiées. Et donc, suite à cette macabre découverte qu'a faite cette Lisa, il va y avoir des meurtres surnaturels qui vont se dérouler, dont un meurtre au harpon quand même qui vaut son pesant de cacahuètes, hein, qu'on ne voit pas venir. Le premier meurtre d'ailleurs, je crois, si ma mémoire est bonne. Alors, attention, ceux qui connaissent le grand Lucio Fulci, ne vous attendez pas à retrouver le grand Lucio Fulci de l'enfer des zombies, de Frayeur, de l'au-delà. Non, c'est le Lucio Fulci de fin de carrière. C'est un homme à l'époque. Alors ce film, il était un peu attendu par les fans de Fulci parce que c'était un retour vers le macabre, vers le gothique qu'il avait su si bien illustrer dans d'autres films dont on vient de parler à l'instant. Et là, c'est un film à une époque où le cinéma italien, on est en 90, le cinéma italien est fini, le cinéma bis italien est fini, ce n'est plus du cinéma bis, c'est du cinéma Z, il n'y a plus d'argent. Et il y a un producteur qui est une sacrée arsouille, on va dire ça comme ça, pour rester poli, qui s'appelle Ettore Spagnuolo, qui a quand même produit Sangral, Le Retour du Barbare, Trésor de Guerre, du Prosperi, du Lenzi, voilà, ultra fauché. Et qui a produit A Enigma, film sous-estimé de Fulci, quand même un film assez sympathique, même si le film n'est pas sans défaut. En tout cas, il est bien meilleur que ce Démonia. Et quand on sait comment les conditions de la manière dont ce film a été produit, à tel point que d'ailleurs l'équipe à un moment s'est totalement arrêtée parce que personne n'était payé en fait, hein, et que Fulci a fini par se barrer pour combler les trous du scénario, il joue dans le film aussi, il a un rôle récurrent de flic qui enquête sur ces meurtres, et puis au bout d'un moment, le film a été filmé entre décembre 89 et janvier 90, hein. Au bout d'un moment, Fulci en a tellement marre qu'il se barre, en fait. Et le film sera fini à la One Again, et le monteur va achever de massacrer le travail. Il y a des faux raccords quand même assez incroyables dans ce film. Là où Fulci aurait mis des brumes, là où Fulci, parce qu'on sait que Fulci, quand c'est fauché, même quand les films ne sont pas super réussis, il peut se débrouiller pour masquer la misère. On l'a vu avec des Conquests, on l'a vu avec 2072, Les Mercenaires du Futur, qui ne sont pas les meilleurs films de Fulci, mais où Fulci arrive à instaurer une atmosphère, arrive à tricher pour faire croire que le film coûte plus que ce qu'il y a à l'écran. Là, ce n'est pas le cas. Et en plus, le fait de remasteriser tout cela en 4K n'aide pas, puisque ce qui était masqué par l'image vidéo, là, saute aux yeux en matière d'effets spéciaux. Il y a un moment, il y a un personnage qui est écartelé. Bon, on voit bien le trucage quand même. C'est censé être une scène choc, parce que par contre, il y a du gore. Il y a des moments assez dégueulasses dans le film. C'est aussi l'un des derniers soubresauts de la non-sploitation, c'est-à-dire ces films de non, même si on est... Là, c'est de la nonne maléfique qui revient d'entre les morts. Il y a un petit peu de possession. Enfin, de toute façon, le scénario est un peu foutraque. On n'est pas totalement non plus dans la non-sploitation, puisque les films de non-sploitation se passent normalement dans un couvent. Il faut faire les choses. Il faut dire les choses telles quelles. Donc, moi, je retiendrai. Alors, c'est pas un bon film, c'est un mauvais film. On est dans la série Z. C'est pour les complétistes de Fulci qu'il faut le voir. Mais il y a quand même une attaque avec un chat qui vaut son pesant de cacahuètes me laisse à penser que Fulci, il avait vu The Uninvited de Graydon Clark, parce que on est dans cette galaxie. Toi, Thomas, qui a déjà écrit sur Graydon Clark, tu es l'un des premiers à avoir fait un dossier Graydon Clark dans ce pays qu'est la France, pour redonner tout le crédit qu'il mérite à Graydon Clark. Je sais que tu as forcément remarqué cette référence dans ce film de Fulci.
Eh bien non, tu me l'apprends, parce qu'en fait, le film de Fulci, il est tellement ennuyeux qu'au bout d'un moment, on finit par regarder d'un œil, comme Albator. Donc finalement, on finit par perdre le fil. Puis là, de toute façon, ce passage-là, on a beau regarder d'un œil, mais le personnage, il perd ses deux yeux. C'est vraiment dégueulasse.
On a des archéologues canadiens, du coup, qui sont en Sicile, petitillés et tout, pour étudier des vestiges. Que les peuples d'Amérique viennent fouiller en Europe, ça arrive souvent parce qu'eux n'ont pas d'antiquité, du coup on les intéresse beaucoup. Mais le truc qui est intéressant, c'est qu'ils fouillent justement un amphi grec ou romain. Et durant tout le début du film, ce qui est important, c'est que les paysans, les villageois qui vivent là, ne veulent pas qu'ils fouillent dans le monastère parce qu'ils vont réveiller les morts. Et moi, c'était un truc que je n'arrivais pas à comprendre, justement, parce que si on est dans un amphi romain, l'endroit qui fouille, c'est la Seine, donc où il n'y a aucun cadavre. Et tout le début du film, l'intrigue porte sur le fait qu'il ne faut pas aller fouiller dans le monastère qui est un peu plus loin. Par contre, il y a des éléments que le film réussit indirectement. Par exemple, le fait que Lisa est présentée d'abord à travers une séance de spiritisme avant d'être présentée en archéologue, ça montre qu'elle est intéressée par la pseudo-science, ce qui va l'attirer un peu plus tard à l'intérieur du monastère, qui n'est pas fouillé au final. Plus ou moins, ils y fouinent. On a parlé de la scène de l'attaque des chats aveuglants qui est vraiment très bien. C'est pas un hasard si on en parle, c'est vraiment que c'est une scène réussie. Mais le truc qui est intéressant au final, c'est que tout ça se passe en Sicile, et c'est surtout au niveau de la présentation des Siciliens que Fulci en fait. Il en fait surtout des hommes renfermés, xénophobes, dont les femmes ont peur de leurs hommes, et il oppose indirectement connaissance et tradition. C'est pas un excellent film, mais il y a quand même quelques points à applaudir. Même si moi, du coup, je suis pas rentré dans le film, parce que niveau archéologie, c'est un massacre.
Ce film, qui développe tout de même la thématique propre à beaucoup des films que nous avons évoqués depuis le début de l'émission, à savoir effectivement un affrontement entre les paysans, qui vivent dans des coins reculés et qui seraient pas sortis des traditions ancestrales, et qui affrontent, qui sont confrontés à la modernité. C'est effectivement une thématique de ce film mineur dans la carrière de Lucio Fulci, qui s'appelle Démonia, et qui est tout de même, pour tous les fans de Fulci en tout cas, à avoir dans sa vidéothèque. Mais ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, loin de là. Voilà, c'est sorti chez Carlotta Film. On va quitter Carlotta Film maintenant pour terminer l'émission avec deux films d'animation. Deux films d'animation qui ne sont pas d'ailleurs spécialement italiens. Il y en a un qui est franco-italo-suisse, qui est réalisé par Alain Huguetto, qui est un réalisateur français d'origine italienne et qui est sorti en salle début 2023. Ce qui me fait dire que quand même, en 2023... parmi les meilleurs films sortis. Il y a des films d'animation. Il faut croire que la créativité aujourd'hui se niche beaucoup en termes de mise en scène dans le cinéma d'animation. Puisque si l'on prend le Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est tout simplement pour moi un des meilleurs films de l'année. Et Interdit aux chiens et aux Italiens est également un des meilleurs films sorti en 2023. C'est un film très singulier qui raconte dans sa forme, hein, qui raconte la propre histoire d'Alain Huguetto, enfin pas sa propre histoire, mais plutôt l'histoire de sa famille. Il retrace le parcours de ses grands-parents, qui étaient agriculteurs piémontais, qui sont nés à la fin du 19e siècle et qui ont été poussés à émigrer vers la France par leurs conditions de vie, aussi par la montée du fascisme au pouvoir. Un magnifique, je trouve, hein, hommage poétique aux immigrants transalpins.
Che in casa mi chiedono da mangiare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella, ma è bella per pochi e non per me. Da muratore in fonderia, poi minatore e così via. Con queste porta di tutti chiedendo da lavorare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire. La vita è bella, ma è bella per pochi e non per me.
Écoutez Culture Prohibée spéciale cinéma et Italie.
Miseria nera nel mondo d'oro, mattina e sera io cerco lavoro, ho buone braccia da adoperare, sono quattro le bocche che in casa mi chiedono da mangiare. Io vendo il cuore, lo vendo per non morire, la vita è bella. Per pochi e non per me. La vita è bella, ma è bella per pochi e non per me. La vita è bella.
Je suis totalement d'accord avec toi, Jérôme. On a eu deux films d'animation assez monstrueux. Et Interdit aux chiens et aux Italiens, même s'il a fait moins de bruit, en fait totalement partie. On a affaire à un film d'animation en volume, en stop motion, si vous voyez plus facilement avec ce terme, qui a un énorme coup de cœur et qui a la force, déjà dans son animation, d'être assez particulière, vu que le réalisateur a une interaction avec les figurines, c'est-à-dire qu'on voit ses mains, c'est lui qui fait le narrateur. Il y a même un moment où son père qui vient de naître, du coup, dans le film d'animation, est un peu trop agité. Et du coup, son grand-père demande à l'animateur, du coup, de garder son père qui bouge beaucoup. Ça fait très méta, mais en soi, le film est très simple. C'est un film court et ça fait du bien parce qu'en peu de temps, il arrive à être efficace et à nous prendre. Un film très doux, mais qui aborde beaucoup de sujets importants comme la pauvreté, la guerre, l'immigration, la xénophobie, le fascisme, la mort et plein d'autres termes. Ça m'a rappelé à divers égards Ma vie de courgette, qui était également un film d'animation en volume et qui avait des sujets importants, mais qui était accessible à beaucoup de monde, y compris aux enfants. C'est un film avec un aspect historique qui permet de montrer la vie à un moment T, avec des pointes d'humour qui sont réussies, notamment la chasse à la mouche, qui revient à différents moments, dont un très beau moment père-fils au milieu du film, où le fait que du coup le futur père du narrateur bricole beaucoup et démonte et remonte des trucs pour aider sa famille. Et oui, Interdit aux chiens et aux Italiens est l'un des meilleurs films d'animation de de l'année et même un des meilleurs films de l'année à vite rattraper si vous ne l'avez pas encore vu.
Oui, donc Interdit aux chiens et aux Italiens qui est, je le rappelle, disponible chez Blackout et qui a aussi la particularité, mais Thomas va peut-être nous en parler, moi ce que j'aime bien c'est de mélanger aussi des matières et par exemple Alain Huguetto est allé en Italie, à l'endroit où vivaient ses grands-parents. Par exemple, il a ramené des châtaignes et il utilise ces châtaignes pour constituer le décor de son propre film, mélangeant les volumes sans se soucier du moindre réalisme, puisque de toute façon, tout cela est assez poétique. C'est une des nombreuses originalités de ce film passionnant, Thomas.
Effectivement, il mélange les matières, il mélange les différentes formes d'animation, mais aussi, il mélange aussi les tonalités, les genres, parce qu'il aborde quand même un sujet qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire l'immigration. Il arrive à désamorcer le drame par l'humour, par la poésie. Et c'est aussi un film qui rappelle qu'on n'immigre pas. On ne migre pas par plaisir, on migre aussi parce que parfois on y est forcé, pour des raisons de pauvreté, pour des raisons de guerre, et aussi que parfois le pays qui accueille les migrants est bien content de les trouver pour leur donner des boulots que les gens du coin ne veulent pas faire.
On va rester chez Blackout pour parler du dernier film de cette sélection pour cette émission spéciale Cinéma et Italie, et là on va parler d'un film norvégien de Kajsa Næss, j'espère que je le prononce bien, hein. K-A-J-S-A et plus loin N-A-E-2-S, qui est un film qui traite de l'Italie et de la Norvège en 1925, voilà, et qui raconte l'histoire de l'expédition de Roald Amundsen et de Umberto Nobile. Inutile de vous préciser qui est l'Italien, qui est le Norvégien dans cette histoire. Voilà. On est en 1925, le Duce est en place, et l'ingénieur Umberto Nobile y trouve par hasard une petite chienne voleuse de saucisses qu'il baptise Titina. D'ailleurs, si on est assez vigilant, on comprendra très bien que, puisque de nos jours, il y a également Titina, que Titina est une licence poétique, parce qu'évidemment, un chien qui était vivant en 1925 ne peut pas être vivant de nos jours. Voilà, mais elle est toujours vivante dans l'esprit d'Umberto Nobile. Voilà, et Umberto Nobile, il la trouve, cette petite chienne qui vole des saucisses chez le boucher. Il la récupère, il la prend sous son aile, et il est contacté par Roald Amundsen, qui est un véritable explorateur norvégien. Roald Amundsen lui demande de fabriquer un dirigeable pour affronter le froid polaire. Et ils vont donc y aller tous ensemble, c'est-à-dire Nobile et son équipe, Amundsen et son équipe, et ils vont partir vers le pôle Nord. Ils vont découvrir le pôle Nord. En fait, c'est les premiers à avoir mis les pieds là-bas. Et c'est une histoire vraie, donc ce qui permet un peu, comme dans le film de Alain Huguetto, de mélanger un peu les techniques, puisque le film alterne entre images documentaires de l'expédition réelle et des images complètement, enfin du dessin animé classique, quoi. Voilà, parce que là on est dans du dessin animé classique avec un trait très très Don Bluth, j'ai envie de dire, très très classique, très presque style ligne claire, comme on dirait, quoi. Voilà, très classique, très enfantin. Voilà. Et le film ne prend pas spécialement, d'ailleurs, la vision du fox terrier Titina, hein, mais plutôt décrit l'évolution de ces personnages qui sont donc dessinés de manière très fine et qui vont se retrouver. Alors, c'est rigolo parce qu'ils jouent en fait avec les ombres, parce que les personnages n'ont pas d'ombre. Par contre, les paysages sont ombrés, donc ça donne des effets de volume très intéressants au niveau plastique. Et puis, y a des scènes vraiment étranges où là, on est dans la tête de Titina, et qui voit des choses très étranges. Par exemple, un pingouin empaillé qui chante. Elle communique avec une baleine sous la banquise, des choses comme ça. Voilà. Des moments très, très étranges qui font progresser le récit, qui ont un vrai sens, qui apportent un aspect presque métaphysique à ce film, puisqu'en fin de compte, le personnage le plus sage, c'est ce chien. Hein, et ce chien qui est au centre d'un peu de tous les enjeux, parce qu'à un moment, ils sont affamés, l'équipe d'Amundsen essaye même de la manger, et c'est Nobile qui sauve son chien. Et puis, il y a aussi, moi, ce que j'aime bien, C'est évidemment, le contraste est marqué entre les deux pays, hein, c'est-à-dire que c'est très coloré en Italie, il n'y a quasiment pas de couleur pour la Norvège, évidemment. Et il y a aussi comment... Il détourne aussi l'imagerie fasciste de manière assez drôle, ça c'est assez marrant. Mais le nœud gordien de cette histoire, c'est qu'en fait, Nobile et Amundsen découvrent ensemble donc, le pôle Nord. Ils ne peuvent, en fait, Amundsen n'aurait jamais pu découvrir le pôle Nord sans Nobile. Mais en même temps, si Amundsen ne l'avait pas contacté, Nobile n'aurait jamais construit le dirigeable pour y aller. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, Amundsen va s'attribuer la réussite de cette expédition. Nobile ne va pas du tout être content. Il va retourner voir le Duce parce qu'il veut refaire une deuxième expédition. Il va aller faire cette deuxième expédition et il va malheureusement se perdre durant cette expédition. Et c'est Amundsen qui prendra tous les risques pour le sauver. Voilà. Et c'est ça l'histoire du film. C'est ça le nœud gordien du film. Et pourtant, Amundsen n'est pas un personnage sympathique, mais il a comme une sorte de code d'honneur, hein, pour rester un peu dans la thématique de ce qu'on disait à l'instant sur l'immigration. Il a une sorte de code d'honneur. Quand on est un aventurier, on ne laisse pas un autre aventurier mourir. Mais quand on est marin, on ne laisse pas quelqu'un se noyer en mer. Donc c'est un peu le même code d'honneur. Et ça va donner un film qui est un regard très, très tendre sur une période très noire, très sombre de l'histoire, en fait, puisqu'on est à la période où se développe le fascisme, à la période où va s'implanter l'extrême droite un peu partout en Europe. Et... ce que nous montre le film, c'est cette expédition qui prend place dans ce contexte très singulier et tout ce qui va autour et comment ces hommes en fait vont se retrouver par-delà leurs différences et par-delà leur détestation en fait, mais c'est un but commun qui va les amener à s'apprécier mutuellement en fait, à s'apprécier différemment. Donc c'est un très bon film d'animation qui est plutôt au départ un film enfantin, en fait, plutôt pour les tout-petits. Mais c'est un film qui a l'intelligence de croiser avec beaucoup de bonheur la petite et la grande histoire à travers ce personnage évidemment très attachant de Titina. Donc Titina, qu'on vous conseille vivement et qui est également disponible chez Blackout. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Oh.